bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Nous sommes cette semaine avec une sélection de nos meilleures émissions en compagnie de la bande au grand complet. Et pour commencer, elle est en tournée avec son spectacle À nos amours, c'est Sophia Ram.
Sophia,
je suis ravi de vous accueillir pour parler de À nos amours, un spectacle qu'on a eu la chance de voir, d'applaudir, de rire, et c'était intéressant de voir d'ailleurs aussi bien et d'écouter évidemment ce qui se passait sur scène que de voir le comportement et les réactions dans la salle. Je me demande si il y aurait pas un doc à faire avec des caméras qui ne filment que le public pour voir qui réagit comment. Est-ce que vous les voyez de là?
J'adorerais. Non, je vois personne. Je suis myope comme une taupe. Même si on me les éclairait, je les reconnaîtrais pas. Mais je sens et j'entends surtout. Et il y a des moments où les hommes
rient plus, il y a des moments où les femmes
rient plus. Enfin, c'est assez intéressant.
Ce qui est marrant, c'est aussi de voir la façon dont Nagui fait des compliments. Ce qui serait intéressant pour le spectacle, c'est de prendre le public et pas l'artiste.
Il n'a pas dit ça.
J'ai beaucoup ri et beaucoup
réfléchi.
Oui, c'est ça. Ça donne à réfléchir. Pour une fois, ça fait du bien.
Je connais pas, moi, c'est pour ça.
Tu devrais y aller.
On est tous pour que
Daniel Morin assiste à mon spectacle.
Et on m'a refusé l'entrée.
Pourquoi
on m'a refusé l'entrée.
Ça peut même être financé par un organisme
humanitaire.
Oui, une formation comme ça.
On en reparle dans deux secondes, mais d'abord, des questions sur Sophia Ram. Quand les parents dormaient, que faisaient Sophia Ram et ses frères et sœurs?
Regardaient la télé, mangeaient dans le frigo.
Alors c'est un rapport, oui, il y a une ambiance frigo.
La cuisine, ils piquaient des trucs dans le frigo.
Non, ça, ils allaient dans la cuisine, ils faisaient quoi?
Préparer comédie, déjeuner, pièce de théâtre,
gâteau?
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans une cuisine?
Alors,
ils se mettaient dans le frigo?
Ça va pas, non?
Bah, c'est drôle, pour voir si la lumière est allumée ou pas quand on est dedans.
Ah oui. Est-ce que la lumière reste allumée quand la porte est fermée?
On l'a tous tenté, non?
Oui.
Non.
Vous avez une enfance difficile, il a pas voulu en parler.
Surtout un frigo.
On comprend beaucoup plus de choses maintenant.
On faisait des sketchs.
Vous feriez quoi dans la cuisine? Non, avec frères et sœurs. Alors, on s'approche.
Un conseil de famille.
Non.
Un concert.
Ils jouent au papa à la main.
Pour se débarrasser des parents.
Pas loin.
On joue à la cuisine. On joue au chef cuisinier.
On joue au docteur.
On joue aux parents.
Sur le reste de la cuisine.
On joue au cuisinier. Ils faisaient top chef.
On a de la musique.
On danse.
On faisait des booms dans la cuisine.
C'est la cuisine qui a induit en erreur.
Mais alors, c'est la cuisine, du coup, tu te dis, ça pourrait être n'importe où.
Mais elle était insonorisée quand même.
Non, parce qu'on avait un petit appart, on avait 6 enfants. Il fallait qu'il y ait une pièce assez grande pour accueillir tout le monde.
C'est une boom clandestine. En plus, t'es près du bar. Dans la cuisine.
Ça, je connais.
À côté du frigo. Mais là, vous avez quel âge, pardon, quand vous faites ça?
Moi, je devais avoir 6 ans.
Ah oui, à 6 ans?
Ouais.
Sans dormir?
Oh là là, mais non, c'était pour les nuls.
Et c'était quel genre de musique?
Alors, ça dépendait. Il y avait des thèmes. Parfois, c'était des soirées marocaines où là, on mettait les cassettes audio
d'époque,
hein, qu'on retournait et qu'on rembobinait avec un stylo bic. Et parfois c'était des variettes.
Vous étiez fan de qui?
Moi, j'étais très...
Parce que vous aurez spectacle avec Patrick Juvet, donc je voulais savoir si vous étiez 70
J'étais
ou
tout
pas.
Ce qui était ringard, bien sûr, moi, tout ce qui a été ringard, tout ce qui l'est encore aujourd'hui, tout ce qui était ringard à l'époque, j'adorais. Juvet, je pouvais danser sur Juvet.
Juvet, maintenant, c'est top fashion.
C'est attention. Fashion ah, okay. ah bah voilà, faut toujours pays. Être en avance.
Mais, oui, tout ça.
Que lui a pris son frère? L'un de ses frères.
À siffler, à roter, à... Qu'est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un?
Ça, c'est moi qui lui ai appris à roter.
D'accord, ok.
À se défendre
face aux garçons.
Non.
Faire du vélo.
Jouer au foot.
Truc de mec.
Pipi debout.
Voilà. Bah, non, mais non.
À se raser, j'allais dire.
Sympa.
Ça
Ça vient de toi, là. Pour une fois, c'est pas nous.
Moi, je veux dire, quand ce vendredi matin, ce bat impeccable.
Moi, j'adorais mimer mon père qui se rasait. Je mettais de la crème Nivea et je faisais semblant de me raser.
Pas se battre. Non, c'est un rapport avec un super-héros.
À voler,
Superman.
À s'accrocher au mur, à grimper. À
exactement. À grimper au mur comme Spider-Man.
Oui, on avait un couloir très étroit dans notre appartement et on s'accrochait au mur
et
on grimpait comme ça.
Ah, tu pouvais faire main droite.
Et un jour, mon père est passé dans le couloir et il entendant et là, il lève la tête et il y avait deux enfants accrochés au plafond.
Mais vraiment, vous arriviez?
Ouais, on arrivait super bien.
Oh la classe.
Des fois, j'ai envie d'essayer, mais j'ai peur.
Le papa, justement, de Sophia Ram a été, il faut pas que j'en dise trop, cuisinier dans une haute, très haute
Élysée.
À l'Élysée. Institution.
Matignon.
Non.
privé ou public?
Non.
Un grand restaurant?
Alors pardon, c'est une ironie quand je dis haute, t'es très haute.
À la cantine de
Radio France.
À la cantine de Trappe.
À Daniel Morin.
Radio France.
À la cantine de Radio France.
Exactement.
Il est, c'est lui le fautif, c'est lui le criminel.
C'était pas la cantine, c'était le restaurant Nagui. C'était le restaurant à l'époque.
Il y a eu plusieurs restaurants.
Il y avait un chef, c'était Raymond Oliver à l'époque. Mon père
était. Vous êtes la fille de Raymond Oliver?
Non, je suis la fille de Mohamed Aram, qui lui travaillait reconnu à G. Et quand la maison de la radio a ouvert, il est arrivé ici avec Raymond Oliver.
La classe.
La classe ou pas?
Ah oui, mais il était étoilé carrément Raymond Oliver.
Ouais, mais pas mon père.
Non mais je veux dire, non, c'était un restaurant de qualité,
oui,
c'était pas un restaurant d'entreprise entre guillemets.
Oui, bien sûr, oui, non, c'était de la grande cuisine.
Mm. Et vous avez entre guillemets grandi en écoutant aussi Inter parce que papa travaillait là, vous écoutiez ça à la maison, pas du tout.
Non, à la maison, on va être très honnête, on écoutait RTL.
Ouais.
Mm. C'était très Radio Maghreb.
À l'époque, c'était bien. Oui. Que Sophia a-t-elle mis chez elle pour absorber, oui, j'étais pour absorber les ondes.
Un talisman, quelque chose.
Les, truc d'œuf.
Marre de café, citron.
Quoi, c'est des œufs qui absorbent
les boîtes d'œufs.
Ah, oui, ah non, ça c'est le son. Non, là c'est les ondes, les vibrations, j'imagine. C'est plus magnétique qu'autre chose.
Ça. Une éponge.
La Wi-Fi, tout ça.
C'est
ça.
Une sorte de grillage.
L'aluminium.
Non, c'est quelque chose de naturel. Une cage Faraday, toi,
carrément.
La litière de chat. Non, oui.
Et c'est vivant.
C'est une ficus.
Non, c'est une plante.
Donc ficus wifi.
Donc c'est vivant, c'est une plante.
Un cactus.
Oui.
Le cactus,
ça absorbe
les ondes. Ah oui, ouais, les Mexicains, ils n'ont jamais de problème à ce niveau-là.
Ils n'ont pas de réseau.
Ils n'ont pas le téléphone.
Il y a tellement de cactus au Mexique, il n'y a pas de réseau.
Capte pas, coupez le cactus là.
J'ai lu ça, et parce que au départ j'étais un peu contre, je voulais pas qu'il y ait la wifi à la maison, parce que je me disais non, ça va être horrible pour les ondes. Et quand j'ai découvert que tous mes voisins, en fait, quand j'ai allumé le truc, j'ai vu que tous mes voisins avaient des réseaux, au début, hein, je parle de ça, et moi je suis allée chercher, et j'ai trouvé que les cactus absorbaient les ondes. J'ai envie d'y croire, je sais, c'est pas rationnel du tout,
pardon,
mais laissez-moi y croire.
Vous êtes feng shui, vous êtes bougie parfumée,
Non.
Sophia a une maîtrise en arabe. Arabe et dans une autre langue.
En finlandais.
Anglais, allemand, italien, portugais,
russe,
le danois,
le mandarin,
le turc.
Chinois.
Vous allez avoir du mal à trouver. Hein.
L'ouzbek,
le magyar.
Non.
Le luxembourgeois.
C'est une langue inventée avec les enfants?
Non, c'est une véritable langue.
L'espéranto.
Non.
Langue de bœuf.
Non. Non, tu sors. Non, là, ça me rigole. Je pense
que les gens rigolent.
Je pense qu'il faut des expulsions temporaires comme au hand. Tu vois,
ça rigole. La preuve.
Mais ils rigolent parce qu'ils ont pitié.
Ça marche.
À son âge, Ziz le pauvre. S'il faut, c'est la dernière vanne et après il disparaît. C'est pas possible.
Non. Est-ce que c'est européen?
C'est
le serbe,
européen, oui.
Le serbo-croate?
Non.
Le finnois?
Ça se parle encore.
Le hongrois?
Ça se parle encore. Oui.
Le polonais? Le breton?
Non.
Ah oui, c'est une langue locale.
Ah,
c'est
l'occitan.
L'occitan. On va aller plutôt dans le sud.
Le portugais?
Non.
L'italien, mais je ne sais pas si ça se parle encore.
Non. Le catalan.
Le catalan. Corse, non.
Ah, ils ne trouveront pas.
Le galicien.
Non. Attends, non. Le sud.
Le sicilien.
Sud, on est en Méditerranée, oui.
Le sicilien, le maltais.
Maltais.
Alors, hein, je, pour rectifier, je n'ai pas de maîtrise en maltais. J'ai une licence de linguistique et dans.
Et un bichon.
En licence.
Maîtrise d'arabe.
On va pas y arriver.
En licence, j'ai étudié le maltais, mais j'ai pas de maîtrise de maltais. Ah non,
d'accord. Mais alors, quelle est cette langue?
Parce que
ça ressemble à quoi, le maltais?
Le maltais, ça ressemble à l'italien, l'arabe, l'anglais. Enfin, c'est un mélange de plusieurs langues et c'est passionnant. Ouais.
Parce qu'il y a plein de touristes.
Je suis incapable de le parler. Je l'ai étudié, je l'ai lu et je le parle pas du tout.
D'accord.
Mais en Algérie, il y avait des maltais. Hein.
Pourquoi l'avoir étudié?
Parce que c'était les dialectes du Grand Maghreb. Ce qu'on appelle le Grand Maghreb allait du Maroc, la Mauritanie, le judéo-arabe.
D'accord. Dernière question, dans quel genre de magasin a-t-elle été vendeuse?
Chaussures.
Quincaillerie.
Non.
Kiabi.
Bricolage.
Non. Non, mais tu as quelques lettres en tout cas.
T'as dit quoi?
Ikea.
Oui, Ikea.
Ah, tu vois.
Oh, là, Fred.
C'est tellement fort en anagramme.
Ouais, c'est ça.
Je savais pas quoi foutre.
Qui habite à Ikea? Vendeuse chez Ikea au nord de Paris, dans une zone industrielle.
Dans l'ouest, à côté de Trappes, j'étais à Plaisir.
Ah, d'accord.
Et je vendais des canapés. Canapé, bibliothèque, j'étais numéro 1 sur les ventes des Billy. La fameuse Billy. Et un jour, j'ai eu une gamme, parce que tout le monde rigole avec les noms, mais un jour, on a reçu une gamme de meubles qu'ils ont dû retirer parce qu'elle s'appelait Sconard. Et quand les gens arrivaient en disant bonjour, je voudrais Sconard en bleu, c'était un peu compliqué.
Génial.
Ouais,
Sconard, c'est bon.
C'est génial. Génial.
C'est vraiment c'est des cons en Suède.
Et pardon, et les noms veulent dire quelque chose en suédois ou pas?
Alors, connard, oui, c'est une bonne indication. Ouais. J'ai découvert en travaillant là-bas qu'il y avait une femme assez âgée à l'époque.
Skonas.
Il va toutes les faire. Ouais.
Il est en forme olympique.
Je sais pas ce qu'il a.
Je sais pas.
T'as pris une pilule bleue? Qui s'est passé?
Et donc, cette femme assez âgée vivait en Suède et son métier, c'était de trouver les noms des meubles et de vérifier que partout dans le monde,
aucun autre
nom pouvait passer. D'accord. Et donc, ce connard, elle était passée à côté.
On apprend quoi quand on est vendeuse dans une surface alors, comme Ikea?
Par exemple, on apprend le rapport avec les hommes qui voient une petite vendeuse avec un polo rouge et un badge « Je peux vous aider » et qui font des vannes toute la journée. Ah, et quand vous vendez des canapés, il y a à peu près sur une journée, je pense, une cinquantaine de gros lourds qui sont persuadés de la faire en premier, d'être les seuls à avoir une idée.
On peut l'essayer ensemble ?
Absolument. Vous étiez là, Nagui ?
Mais c'est
les vieilles ficelles, tu sais.
C'est terrible.
Tellement téléphoné.
Et puis on s'imagine que la vendeuse avec son petit uniforme, elle est corvéable à merci, on peut la draguer, c'est bon quoi.
Elle est même flattée.
Ouais, ça lui fait plaisir la pauvre fille.
Ça donne un très bel enchaînement avec le spectacle, parce que c'est vrai que Sophia, ce spectacle, j'ai pas envie d'employer le terme féministe parce qu'on met souvent dans cette catégorie un militantisme qui pourrait être agressif. Alors moi, j'ai trouvé ce spectacle intelligent.
Non, faut se réapproprier le terme féministe. Il faut juste pas le laisser à ces personnes-là. Le féminisme, c'est juste un courant de pensée, une idéologie aussi qui est partagée autant par les hommes que par les femmes. Et après, les acharnés, il y en a dans chaque domaine, quel que soit justement le courant de pensée. Il faut pas leur abandonner ce terme-là. C'est un spectacle féministe.
Ok, Nagui.
Je comprends complètement la réticence de Nagui parce que souvent
j'ai pas trouvé agressif, militant, j'ai trouvé intelligent parce que vous faites des comparaisons entre hommes et femmes avec il y a pas une phrase qui ne fasse pas éclater de rire, mais chaque fois qu'elle fait éclater de rire, elle donne à réfléchir. Ça c'est un
vrai compliment. Merci
non mais c'est vrai, c'est un travail très intelligent parce que il y a une vanne, mais il y a pour la forme, mais pour le fond, il y a toujours quelque chose. On se dit, mais c'est vrai qu'elle a raison. Si les hommes avaient leurs règles, on en parlerait beaucoup plus. Et ça ne serait pas sale. Et surtout,
c'est sûr qu'on en parlerait.
Ça serait remboursé par la sécu.
Et c'est sûr que les mecs hurleraient de douleur.
Il y aurait un médicament pour apaiser ces douleurs.
Ah, mais c'est sûr. Et puis il y aurait même un jour férié tous les mois.
C'est un peu plus.
4 minimum, oui.
Ouais.
Le temps de s'en remettre, moi je dis 6.
En tout cas, de vivre ensemble, on les aurait tous ensemble.
En même temps.
Ouais. Ouais.
Il paraît qu'il y a des influences comme ça.
On pourrait se tenir la main.
Quelle a été la ligne directrice du spectacle quand vous êtes mise à l'écrire ou co-écrire avec votre
mari? On l'a écrit à deux, oui, avec mon compagnon Benoît. L'idée de départ, c'était l'affaire Weinstein, parce qu'on avait trouvé que toutes ces réactions complètement choquées des gens qui découvraient que des femmes étaient victimes d'agressions sexuelles dans le milieu du cinéma, c'était énorme, c'était colossal, tout le monde était, mais c'était un bouleversement. Sauf que pour moi, il n'y avait rien de nouveau. Je ne comprenais pas que les gens soient surpris, que les gens réagissent de manière étonnée, que ça arrive aussi dans le milieu du cinéma. Parce que mon sentiment, c'est que tout le monde sait que ça existe. Tout le monde sait que les femmes sont potentiellement des victimes. Ce que je dis à la fin du spectacle, par exemple, c'est que...
Oui, c'est ça, c'est la conclusion qui est en plus dite sur un ton sérieux et qui, d'un coup, donne encore plus de poids, d'ailleurs, à ce que vous dites, après qu'il y ait eu les éclats de rire pendant une heure et demie.
Parce que je suis agacée, parce que j'en ai... plus qu'assez qu'on joue l'étonnement, parce que aujourd'hui encore, en France, partout dans le monde, quand une femme sort la nuit, on lui dit « Oh là, attention !» On le fait tous. On dira toujours à une femme « Tu es sûre, tu vas rentrer toute seule ?» Est-ce qu'on a appris que c'était normal ?
Tu t'habilles comme ça, est-ce que tu sais que c'est dangereux. Où tu vas ou par où tu passes ?
J'ai une copine qui dit à sa fille « Attache-toi les cheveux quand tu sors !» C'est insupportable. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Et on vit avec et on ferme nos gueules et je ne veux plus fermer ma gueule et je ne veux pas trouver ça normal. Au moins ne pas trouver ça normal.
Et c'est la meilleure réponse aux hommes qui, après l'affaire Weinstein, commencent à dire « Oh là là, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. » Eh bien, t'as envie de leur dire bah, « Ça fait un petit moment que nous, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Donc, si tu veux, tu fais un petit peu attention où tu mets tes mains et puis ça ira mieux. »
Et vraiment, et tout ça permettra justement de pouvoir vivre de manière totalement apaisée. Ouais. Pour moi, c'est le début de l'apaisement et de la vie normale.
Alors justement, tout le travail que vous avez réalisé est de faire une balade historique dans l'éducation, de dire même dans le spectacle, on y est aussi peut-être pour quelque chose, nous les femmes, si on en est arrivé là.
Bien sûr, parce que pour moi, il y a aussi une forme de soumission volontaire de certaines femmes à tout ça. C'est-à-dire qu'on accepte, on se dit, ouais, bon, c'est quand
est-ce
même...
Que c'est est-ce que c'est une soumission volontaire ou est-ce que c'est les échos de l'éducation que l'on reçoit ?
C'est les deux. Regardez les réactions à l'affaire Weinstein, les premières tribunes, là, le droit à être importuné. Non, mais ça va pas la tête. Ça va pas la tête. C'est quoi ces quiches, quoi ? Moi, qui n'a pas pris les transports en commun ne peut pas savoir que c'est insupportable d'avoir des mains baladeuses, d'avoir des frotteurs, d'avoir... C'est insupportable. C'est une gamine de 14 ans qui en a chopé un. Mais bravo à cette gamine.
Elle l'a mis par terre parce qu'elle faisait du Krav Maga ou un truc comme ça.
Mais vous rendez compte, il va falloir qu'on apprenne le Krav Maga aux gamines.
Mais
non, il faut apprendre aux mecs à tenir leur sgeg et puis à se calmer.
Il faut que les mecs aussi se mettent au Krav Maga s'ils sont chopés par les gamines. On peut plus être frotteur tranquille.
Un trajet va être vachement
Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en gros, on demande aux femmes de faire attention, mais on ne demande pas aux hommes de se tenir.
Non, Nagui, il y a encore beaucoup de femmes qui considèrent que les hommes ont des besoins. Il y a des femmes qui vous disent les hommes ont des besoins. J'ai entendu Eugénie Bastier à la radio dire les hommes ont des besoins. On n'est pas des animaux.
J'ai besoin d'argent.
Moi aussi, j'ai des besoins, Daniel Morin. On ne parle jamais des besoins des femmes et des désirs des femmes.
Il faut que vous parliez.
Et les femmes ont des désirs.
En plus, vous la citez même dans votre spectacle.
Eugénie Bastier, parce qu'elle, elle est en train de réhabiliter cette espèce de machisme primaire et de sexisme. Elle le rend cool, en plus, parce que c'est la fille cool. Elle est jeune. Et elle explique que nous, on est des ringardes, nous, les féministes. Et c'est insupportable d'expliquer que parce que l'homme a des besoins, la femme doit se tenir. Ouais. Ça va quoi, on n'est pas des bêtes. Mais il y avait ce documentaire formidable sur ces jeunes filles qui disent oui parce qu'elles se sentent obligées. Ouais. Il y a aussi cette éducation-là qu'on met dans la tête des filles. C'est-à-dire que, donc s'il m'a offert un verre, je vais être obligée d'y passer. Quoi. Je suis con, j'aurais jamais dû accepter de me retrouver dans cette situation-là et je vais devoir passer à la casserole. Il faut apprendre à une
fille à écouter son
désir à elle. Est-ce qu'elle a vraiment envie de se retrouver au pieu avec un mec ? Si c'est non, elle lui dit non. Et le garçon doit attendre d'être sûr que la fille en ait envie autant que lui.
Et surtout que c'est possible de dire non. Moi, je l'ai souvent vécu. Il y a énormément de personnes sur cette terre qui arrivent à dire non.
Toi, t'as rencontré beaucoup de filles qui savent dire non.
J'ai rencontré toutes celles qui savaient dire non. C'est une liste exhaustive. Je suis en train de faire un recensement. Et elles étaient nombreuses. Et ça me fait plaisir pour l'avenir.
Mais pour revenir à l'éducation, Nagui, il y a une petite fille sur Internet, je ne sais plus comment je suis tombée là-dessus, qui expliquait la répartition de l'espace dans les cours de récréation. C'est une démonstration, elle a 11 ans cette petite, c'est une démonstration fabuleuse. Le foot c'est pour les garçons, la petite elle voulait jouer au foot, on lui a dit non c'est pas un truc de fille, elle joue pas au foot. Elle voulait jouer au basket, on lui a dit non c'est pas un truc de fille, tu joues pas au basket. Elle se retrouve elle fait un dessin, elle fait un schéma et elle explique l'occupation de l'espace de cette cour de récré.
Génial.
Et c'est réduit
et à les filles sont dans un coin.
Elles sont dans un coin.
Elles sont dans la périphérie.
Oui. Ouais.
Une fille seule doit être au téléphone, parler ou marcher, mais en tout cas
semblant.
Être en mouvement.
Bien sûr, des fois on fait même semblant, on a des amis imaginaires.
Alors dans le spectacle, vous donnez beaucoup de plaisir, mais vous prenez du plaisir à chanter aussi. J'ai découvert ça, je ne savais pas que vous aimiez chanter à ce point-là.
J'adore chanter, Nagui, vous allez m'inviter dans vos émissions où les gens chantent.
Hein. Vous chantez bien en tout cas.
Très bien.
Ouais, vous chantez super bien, avec des chansons que vous avez créées aussi.
Ouais.
Dans un esprit.
Ah, c'est dommage, parce que là, on aborde le sujet.
Ça partait bien.
Allez, oh le dérapage.
Elle était à ça de taradata, elle vient de dire les paroles.
La différence entre vous et Zazie, c'est un petit.
Il y a beaucoup de pollution à Paris en ce moment. Je fais du vélo et j'ai la gorge un petit peu
irritée. Pardon.
Donc
vous vouliez rendre quoi ? Un clin d'œil aux comédies musicales ou.
Enfin, j'avais envie de chanter déjà. J'adore chanter.
Oui, mais c'est dans un style.
Ah oui, alors les comédies musicales, parce que je parle des contes de fées.
Il y en a une qui est dans un esprit conte musical, limite Disney. Et l'autre qui est très We Are the World.
L'autre, c'est presque un hymne.
Un chant choral, c'est ça.
C'est presque un hymne. C'est un hymne aux règles que je chante en fin de spectacle. Et la première, c'est les contes de fées. Une fille, ça doit attendre le prince charmant pour être heureuse. Et tout viendra du prince. On doit juste attendre que le mec vous entretienne et vous rende heureuse. C'est ça ton objectif dans la vie quand on raconte ça. Alors, on a le droit de les raconter, hein, moi j'ai pas de problème. Simplement, il faut parler, il faut ajouter des choses.
D'ailleurs. Frédéric.
D'ailleurs, à ce sujet, il y a le monde de Ralph II, où il y a une relecture de toutes les princesses Disney, c'est-à-dire Ariel, la petite sirène, ouais. Elsa, et elles sont toutes réunies dans le même film, et en fait, elles parlent de ce postulat très misogyne dans lequel elles étaient, où elles doivent attendre un homme fort qui vient les sauver. Et il y a une relecture qui est faite dans le dessin animé qui est jouissive sur le rôle de l'homme, sur le rôle de la femme. C'est
et l'homme n'est pas non plus exempt pour le coup dans cette histoire, c'est parce que lui, il doit être celui qui pourvoit à la vie de celle qui est à ses côtés, qui ne fait rien à part nettoyer.
Non, mais ça remonte à l'homme des cavernes.
Je parle de Blanche-Neige qui se retrouve à aller faire le ménage. C'est sept nains, ils sont sept, les mecs. Il n'y en a pas un qui clean sa maison quand même.
Sept mecs entre eux, c'est horrible.
Sept mecs entre eux. Et t'as Grincheux, t'as Simplet, et t'en as pas un qui soit juste propre.
T'imagines quoi. L'odeur. Sans parler d'Atchoum au niveau hygiène, c'est dégueulasse.
T'imagines l'odeur. Mais non, mais sept mecs dans une même pièce.
Attends, il y a aussi des hommes qui changent. Moi, je sais que je suis tombé sur Marie Kondo dernièrement, et je rigolais beaucoup en voyant ça. Et aujourd'hui, je suis obsédé par le pliage.
On va expliquer qui est cette.
C'est une japonaise qui en fait est obsédée par le rangement dans les maisons. Et elle a passé sa vie à élaborer une méthode pour ranger. Et moi, quand je voyais ça, j'ai dit, mais personne, quel est l'intérêt de regarder une émission où les gens rangent? Et en fait, ça te rend fou.
T'es sur Netflix, hein, je crois.
Et j'ai même acheté le livre et je plie tout.
Ah oui, non, mais toi, il faut que t'ailles voir.
Mais lui, il a changé.
C'est-à-dire que les enfants, j'ai tout plié.
Moi, c'est l'étendage.
Les enfants sont pliés.
C'est l'étendage.
Et c'est thérapie de groupe, en fait, cette émission. Tout le monde
avait.
Sophia Aram, ça va être un succès, Albert. Enfin, je veux dire.
Jean-Jacques.
Le personnage de Jean-Jacques.
C'est Jean-Jacques aujourd'hui.
Très cher Nagui, bien sûr que ça va marcher du feu de Dieu. Il y en a marre du machisme, sexisme, phallocratisme, archaïsme, obscurantisme, fanatisme, bigotisme.
Enfin, des mots en isme.
Priapisme.
Non, pas celui-là.
Effectivement, des tas de trucs en isme qui ont le don de m'irriter, rebuter, révolter, épouvanter. Et comme vous venez de le souligner, Nagito Mio, avec cet esprit de synthèse et cet admirable sens du raccourci qui constitue votre marque de fabrique radiophonique, pardonnez-moi si je me permets, à ma façon, de traduire votre pensée. Mais comme vous venez de le souligner, l'humour permet d'aller plus loin et de faire rire avec des sujets qui restent toujours tabous, y compris chez les humoristes. En effet, chère Sophia Aram, vous n'hésitez pas à évoquer des thèmes intimistes, y compris, vous venez de lire les règles, mais aussi le clitoris, le désir, le plaisir. Cependant, il est un thème que vous auriez pu aborder, chère Sophia, et qui malheureusement part trop négligé des humoristes et de vous-même, c'est la coiffure. Daniel et Frédéric.
C'est vrai que t'es bien placé pour faire des vannes sur la coiffure.
Je suis le premier bien. Quant à Daniel et Frédéric, vous pouvez quitter la table, vous jeter une suze à la cantoche.
Chauffe qui
peut. Ce sujet ne vous concerne pas. Alors, en quoi, me direz-vous, parler de coiffure sur scène pourrait faire avancer la cause des femmes, sauf peut-être celle des femmes tendues à la libération
hein.
Donc, me disais-je, en quoi parler de coiffure pourrait faire avancer la cause des femmes et des hommes et de tous les autres? Eh bien, parce que ça permettrait de dédramatiser la situation. Il faut que les hommes, comme les femmes, arrêtent de se cacher. Comme si c'était honteux, arrivé à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, de se cacher quand on recourt, comme moi, ainsi que mon cousin Jacques, à une coupe dégradée, rajeunissante, avec balayage, décollement et pigmentation des racines au charbon de bois, et finition régicolore au reflet aile de corbeau. Il ce combat connaît. Qui nous concerne
il
tous et toutes.
Mais oui.
Mais je m'y connais. Et comment? On ne pourra y arriver qu'ensemble. Pour ma part, je le mènerai jusqu'au bout des mèches, aux côtés de Jean Patou, mon capillicupiteur paysagiste. Jean Bafouille, Jean Père Mondentier, chez Zouzou Coiffure, salon mixte, et donc féministe. Bonne émission.
Merci.
Capilliculteur.
Original. Nagui sur France Inter.
Sophia Ram, un spectacle que vous avez co-signé avec votre mari.
Juste on n'est pas
compagnon.
Mariés,
mais... Ah pardon, compagnon.
Je suis contre.
Mais ça fait tellement d'années. la question c'était quel est l'équilibre entre l'écriture et avez-vous senti une différence dans l'écriture avec la main de la femme, la main de l'homme? Est-ce qu'il y avait vraiment des choses? Est-ce que même dans votre couple, vous avez dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'on parle avec emphase de la force de l'homme et de ses érections et de son éjaculation? Non, mais c'est tout un numéro ça où justement vous dites c'est des mots forts, c'est merveilleux. Et dès qu'on parle de ce qui se passe pour la femme, c'est justement, c'est des règles.
C'est très euphémisé,
ça coule, c'est sale, c'est... on n'en parle pas d'ailleurs. Et puis vous détestez qu'on dise ragnagna.
Si vous êtes la
arrêtez avec ça. Enfin voilà, donc on humilie la femme, on grandit l'homme. Il était d'accord avec vous?
Complètement d'accord. Oui, on était, ça fait quand même 23 ans qu'on vit ensemble. Il vit avec une féministe.
Il a dû comprendre, oui.
Je me suis toujours définie comme féministe et ça m'a jamais posé aucun problème. Et à lui non plus. Non, ce qui était intéressant, c'est d'avoir aussi le point de vue d'un homme par rapport à ça. Je pense que c'était... Parce que pour moi, le combat féministe, c'est un combat d'hommes et de femmes. Oui. C'est pas juste un combat de femmes.
On est d'accord.
Pour moi, c'est vraiment... Ouais. On arrivera à l'égalité quand on aura réussi à mettre tout ça dans le crâne de tous. Parce que quand on combat pour le droit au mariage pour tous, on a beau être hétéro, on veut justement, même si je suis contre le mariage, je veux que tout le monde ait le droit de se marier. Et pour moi,
c'est comme l'écologiste. C'est-à-dire que c'est pas ni de droite ni de gauche, c'est le bien commun, c'est la direction commune, en gros.
Pour moi, le féminisme, il y a eu un moment où on a dit les féministes, c'est des mâles baisés, c'est des filles qui sont contre l'épilation. On a essayé un peu de dénigrer ça. Je pense simplement que c'est un combat pour l'égalité, point. Et donc, mon mec était d'accord avec ça, évidemment. Et chez nous, on est dans un rapport très équilibré.
Vous jouez sur les mots aussi, sur les expressions, notamment sur l'appareil génital masculin-féminin.
Dans l'argot, la façon dont l'argot traite les hommes et les femmes, ça m'intéressait beaucoup parce que la femme, on va parler de minou, on va parler de chatte, on va parler de petit animal tout mignon, alors que chez les hommes, c'est la queue, c'est la teub, avec l'emphase, la teub. Oui, la teub, c'est majestueux une teub.
C'est le zizi aussi.
C'est oui, c'est plus pour les petits garçons.
Non, mais
pour le vocabulaire.
Par exemple, c'est le zizi aussi.
La différence qu'il y a entre l'expression avoir des couilles ou avoir de la chatte.
Avoir de la chatte, c'est avoir de la chance parce qu'une femme n'est pas maître de son destin.
Ouais.
C'est-à-dire que le corps des femmes avait été étudié par des hommes. Donc la connaissance du corps des femmes, elle est encore problématique.
Mais la connaissance du corps des femmes par les femmes aussi. Parce que dans une récente émission, on a piégé à peu près toute la France qui nous suivait, en tout cas, et les invités autour de la table, sur y a-t-il une jouissance clitoridienne et une jouissance vaginale? Y a-t-il deux modes? Et beaucoup de personnes se sont trompées, et c'est Michel Simès avec qui je présentais l'émission, qui a expliqué que tout était clitoridien et rien d'autre.
On parle du même Michel Simès qui avait fait un livre pour enfants où il n'y avait pas de clitoris?
Il avait fait ça?
Oui.
Ah bah je vais le rappeler, écoute, parce qu'il m'a bien expliqué.
Ah non, c'était très problématique. Il avait représenté le sexe des femmes.
Dès que t'as cité Michel Simès, moi je me disais, oh là.
Mais vous le saviez, vous, qu'il l'avait fait.
Mais en tout cas, il y a longtemps, Sophia.
Non.
Il n'était pas au courant.
Non, il n'y a pas très longtemps, il a sorti un livre pour enfants où on représentait le sexe des enfants. Alors le pénis, tout était parfaitement dessiné, la verge, le gland, tout ça, tout y était. Et la femme, bizarrement, la petite fille, elle a pas de clitoris, ça alors.
Peut-être que le clitoris a été découvert entre les deux livres.
C'est ça.
Mais même dans les découvertes scientifiques, la découverte de l'ADN, par exemple, la structure de l'ADN, c'est une femme, Rosalind Franklin.
Elle s'est fait voler
sa découverte, qui a été attribuée à des hommes. Elle a été rétablie par la suite, mais dans le domaine scientifique, les avancées ont été très souvent dues à des femmes et c'était souvent effacé au profit des hommes. Ouais, c'est en train de changer, on l'a réhabilité, mais c'est un scandale gigantesque. L'ADN, vous vous rendez compte, c'est une découverte
fondamentale.
Il y en a d'autres.
Absolument. Vous retrouverez tout ça et je vous assure que vous rirez à gorge déployée.
Oui, parce que là, on est hyper sérieux.
Non, c'est le fond. On l'a mal vendu.
Là, on prend la partie sérieuse et vous irez faire la promo du fun sur une autre radio. Voilà ce qu'il faut faire.
Sophia Ram, ça s'appelle À nos amours. Voici Jérémy Crémier.
Ah, les amis, j'ai un scoop. Samedi, j'ai bu de l'eau.
Je t'expliquerai ce que c'est à la pose de l'eau, Leïla. Ouais. Alors, attention, ça n'était pas n'importe quelle eau. Non, c'était une eau à 2,25€, les 50 centilitres. Ouais. Ouais. Eh oui, seulement 50 centilitres, 2,25€, d'eau minérale. On se dépêche de les acheter. Pendant 10 minutes, les frais de port sont offerts. Et pour l'achat de 2 bouteilles, vous recevrez en cadeau un essuie-tout. Appelez-nous. Voilà, je me suis dit qu'une mauvaise imitation de Pierre Bellemare animerait un peu ma chronique. Tremble, non. Nicolas Canteloup. Revenons-en à l'eau. Allô? Oui, non, il n'y a personne, pardon. Mais quel bout en train, Scratville. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur l'origine de cette expression. Alors, je suis plutôt nul en maths, mais 2,25€ les 50 centilitres, ça fait environ un demi-rein le litre. Hein. Quand l'hôtesse de caisse m'a demandé 2,25€ pour cette petite bouteille d'eau, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais attendez, on est en quelle année? Non, mais je veux dire, l'eau n'est pas rare ici, je n'ai pas croisé de chameau dans la file. Je ne suis pas bédouin, madame. Bon, bah, écoutez, je vais aller sucer un caillou. Parce que, non, mais 2,25€ pour une eau, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, ce n'était pas de l'eau de lune. Je veux dire, c'était une bouteille d'eau normale, achetée en gare de Lyon. Hein, je me suis dit, tiens, si la SNCF fait des barrages avec cette eau, ils auront peut-être des prises de courant qui fonctionnent dans les reins. Dans les rames. Dans les reins. Heureusement que je voulais pas un pack de 6 parce que j'avais qu'un billet de 10. Vous vous rendez compte, un mec qui fait la manche avec un ticket resto, il peut boire 1,5 litre le vénard. C'est fou. Au prix de cette eau, autant se mettre au clope. Je sais, c'est pas très sain, mais tu meurs plus vite. Donc, logiquement, en une vie, tu dépenses moins. Parce que c'est vrai, quand t'es mort, t'es moins dispendieux. Hein, verrez dans 2 ans, monsieur à gauche. Cadeau. Et parfois, mort, tu gagnes même plus d'argent. Un chanteur mort peut vendre des disques. Moi, si je meurs, les gens n'achètent plus de place pour mon spectacle.
C'est sûr.
Et donc, les ventes seront caduques. Pour l'instant, je suis bien vivant. Et à ma mort, pour prouver ma générosité, il y aura une grande fête avec des pichets d'eau de la gare de Lyon. Alors, je me suis renseigné. Il faut savoir qu'une petite bouteille d'eau à 2,25€, en fait, c'est comme une petite bouteille d'eau, mais plus chère. Voilà. C'est une eau goût d'eau. Hein. Je m'attendais à une note de safran ou de truffe. Là, non. Je veux dire, un alcool, quand tu mets un peu d'argent dedans, tu voyages. L'eau, ça devrait être pareil. C'est pour ça que dans le mot alcool, il y a cool, alors que dans eau, il y a EAU. À la réflexion, j'avais peut-être acheté une I.O. Vous pensiez que ceci n'était qu'une bouteille d'eau? Loupé. En réalité, c'est de l'H2O. Plus performante qu'une eau classique, l'IO vous hydratera instantanément quand vous la boirez. L'IO étant à l'état liquide, nos ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour créer le contenant idéal, l'I-bouteille. Pour boire l'IO, il suffit d'ouvrir le bouchon de l'I-bouteille. Approchez le goulot de votre orifice buccal, penchez l'I-bouteille, déglutissez et sentez ce bon goût de rien. L'IO, c'est de l'eau, mais c'est cher. Voilà, en tout cas les amis, profitez de l'eau potable dans vos robinets, elle est parfois beaucoup moins gavée de traces de résidus de plastique que celle en bouteille, et surtout, respirez tant que l'oxygène, c'est encore gratuit.
Merci.
L'oxygène.
La bande originale.
Voici Nick Waterhouse, ça s'appelle Song for Winners dans la bande originale avec Sophia Ram. Sophia Ramy, notre invitée, avec ce seul en scène, comme vous le faites depuis le début, écrit avec votre compagnon. La musique, donc, il y en a, puisqu'elle chante et elle danse.
J'adore.
Que vous bougez bien aussi.
J'ai adoré cet œil qui frise en lisant.
Non, vous bougez.
Il a frisé. Les deux.
Non, puis ce filet de bave était jeune, quand même.
Je te rappelle, Sophia, que tu es myope, donc tu ne peux rien voir dans
les sens. C'est pour ça que je demande à mes camarades.
Vous occupez la salle, la scène est hyper large et vous occupez tout, quoi. Même avec les rideaux, vous avez des jeux à un moment donné, des jeux de lumière qui sont très bien faits, quoi.
Ouais, absolument bien remarqué. Voici la bande originale donc de Sophia Ramy. Ça commence en 73, année de sa naissance. Mais qu'écoutait-elle à la maison ?
Viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, pas pour mon père. Viens, viens. Reviens pour ma mère, reviens, viens, elle meurt de toi, viens.
Qu'évoque cette chanson pour vous ?
Bien. je connaissais pas les paroles quand j'étais petite, mais je me souviens qu'avec mes frangins, on disait toujours viens, viens, et ça se terminait par un truc super langoureux. Mais Marie Laforêt, j'adorais cette chanteuse. J'étais vraiment, j'aimais beaucoup. Je la trouvais belle, je la trouvais intense. Elle avait un truc très très fort.
Et rigolote aussi.
Et rigolote, je la connais peu.
On a évoqué votre enfance avec vos 6 frères et sœurs.
5.
5 frères et sœurs. Vous avez vécu à Trappes.
Ouais.
Donc il y a aussi pas mal de personnalités qui viennent de Trappes, qui revendiquent Trappes.
C'est un nid à vedettes, Trappes.
Bah ouais. Bah, Trappes, c'est une ville où on a fait plein de choses. Grâce à la municipalité communiste à l'époque, on faisait tous du théâtre, on faisait tous du sport. Le lycée nous emmenait en voyage partout. On faisait des stages plein air, des stages de ski. Non, c'était formidable. On a eu des enfances assez joyeuses, je crois.
Ouais, bien loin du cliché qu'on peut coller de rechef à la banlieue et au côté misérabiliste de l'environnement.
Non, j'ai été très très heureuse à Trappes.
Et puis vous avez surtout une grande sœur qui a été importante pour vous parce qu'elle vous a mené au cinéma, elle vous a un peu politisé quelque part.
C'était un dictateur, ma sœur. Elle voulait absolument. Il fallait qu'on parle correctement. Il fallait pas qu'on fasse de fautes. Il fallait qu'on aille voir les grands films. Il fallait qu'on aille voir. On avait des séances ciné-club. On regardait les ciné-clubs à la maison et c'était vraiment super plombant. Le grand film scandinave sous-titré. Enfin, nous, quand on était gamins, c'était des scènes super gore, quoi.
Ouais, il fallait de la VO surtout.
Il fallait de la VO. Ouais. C'était dur à trouver à l'époque.
Et comment vous expliquez ça tout d'un coup que votre sœur voulait vous guider, vous emmener avec vous, en fait, avec elle, dans ce chemin-là?
Elle s'est sentie une responsabilité vis-à-vis de ses frères et sœurs.
Ah, donc elle le faisait pour toute la fratrie.
C'était pas que pour moi. Elle le faisait pour tous. C'était l'aîné.
La deuxième maman.
Ah oui, elle a pris en main l'éducation.
D'accord.
Et comme elle était à l'école, elle était brillante, c'était la première de la classe, elle a sauté des classes, c'était vraiment quelqu'un qui avait pris conscience que l'école était s'il fallait absolument qu'on réussisse à l'école et que la culture en faisait partie. Mmh. Et donc le théâtre, elle nous a emmené, alors pareil, le théâtre c'était pas dans notre milieu, elle nous a emmené les concerts, la musique, tout ça, c'était vraiment elle, ouais.
En 1991 justement, premier cours de théâtre, et là vous écoutiez R.E.M. Losing My Religion, très pop rock.
Ouais, mais j'avais déjà perdu ma religion depuis très 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 longtemps, moi.
Ça, c'est la vanne sur le titre.
Mais j'aimais beaucoup beaucoup R.E.M. Quand ils étaient avec les B-52s, quand ils chantaient Love Shack, etc. Moi, j'aimais beaucoup.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'époque, vous n'étiez pas très très bonne en sport.
Et finalement,
voilà, comme quoi, ça peut aider parce que votre prof de sport vous recommande d'aller faire...
C'est pas vexant comme truc. Vous faites du sport, vous avez un prof de sport, il vous dit, tu veux pas plutôt venir à mes cours de théâtre? Et ben, je lui dis, oui,
ah, c'est
pas.
Le prof de sport
c'est le prof de
qui
sport
donne
qui
des
cours de théâtre. Et c'est lui qui m'a initié au match d'improvisation théâtrale, et qui est toujours un ami, d'ailleurs, Jean Jourdan, je le salue s'il écoute France Inter.
Et vous vous êtes retrouvé dans la même équipe que Jamel Debbouze pour le championnat de France d'impro en 91.
Junior, on jouait ensemble, et puis après on a intégré l'équipe senior ensemble, on a fait des voyages au Québec, on a joué en Belgique, c'était vraiment formidable. Ouais. Et j'ai fait Avignon en 91, j'étais gamine.
Toujours en ligue d'impro, en quoi
ouais, en ouais. match d'impro, oui.
Et vous nous avez raconté que vous avez fait beaucoup d'études. Qu'est-ce qui, à quel moment vous êtes dit, il faut que je choisisse entre soit devenir comédienne, vraiment faire que du théâtre, ou quand même m'assurer un petit socle
passe ton bac d'abord.
J'étais un peu dans cette logique-là. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, il fallait des diplômes dans la vie. Mmh. Donc je suis allée à l'université, j'ai passé mon bac tout en faisant du théâtre à côté. Quand je suis allée à l'université, un peu moins. Et puis après, j'ai eu un enfant. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me suis posé cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers une carrière universitaire? Je pouvais faire de la recherche. Ou est-ce que j'essaye quand même? Et je me souviens, alors ça c'est une anecdote que je vous ai pas racontée, Nagui, mais je me souviens que Jamel était venu me voir et il m'avait dit, Sophia, il y a quand même pas beaucoup de filles à la télé, tu devrais essayer. Et il m'emmène, on va sur le plateau de H, on va faire plein de choses ensemble. Et il me dit, mais vas-y. Je lui dis, oui, mais vas-y, t'es mignon, je fais quoi? Et là, il m'a donné votre numéro.
Mais vous m'avez jamais appelé.
Zéro, on avait travaillé ensemble.
C'est que t'as jamais répondu, c'est oui,
on avait travaillé ensemble et c'était suite à ça. En fait.
Ah, c'était suite à ça. Suite je savais pas que c'était Jamel.
On avait travaillé ensemble sur un projet. Exact. Et c'était Jamel qui m'avait dit, il y a un mec que tu peux appeler qui est vraiment top, c'est Nagui. Et je me souviens, j'avais été très très touchée parce que vous aviez répondu positivement alors que je débarquais, personne ne me connaissait, j'étais juste une étudiante copine de Jamel. Vous auriez pu me dire oui c'est ça, mais en fait non, on avait bossé ensemble.
Et je m'étais bien comporté.
Très très bien. Le mec
hyper inquiet.
On dirait Guirin après ses cuisses.
Sur son visage.
J'ai dit quoi?
La peur du dossier.
Oui, c'est ça. La phrase qu'on faisait, je vous l'ai jamais dit. Je vais non. Et la chute.
Elle a un moment de radio.
Silence. Vous n'avez pas reçu le courrier du tribunal.
Et j'ai gardé l'enfant. C'est ça. Ensuite, on est en 2007. Exactement. Soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. Yel Naïm, New Soul.
Et à cette époque-là, on vous retrouve sur scène, Sophia Aram, dans votre premier One Woman Show, Du Plomb dans la Tête, qui prenait pour point de départ un événement dramatique.
Le suicide d'une maîtresse dans une école maternelle.
Ouais. Ouais.
C'était une cellule de soutien psychologique dans une école maternelle au lendemain du suicide de la maîtresse des moyens. Et je jouais tous les parents d'élèves, les instits.
C'était très drôle.
Oui, c'est vrai, t'étais venue. Mais non, par rapport au spectacle, c'était parce que à l'époque, quand j'habitais à Trappes, il y avait à La Verrière, il y avait un centre MGEN qui était un centre dans lequel il y avait des enseignants en dépression. Et il y avait
MGEN,
beaucoup...
c'est quoi?
C'est une mutuelle.
C'est une mutuelle. Enseignante.
Éducation nationale.
D'accord.
Et c'était un centre dans lequel les profs en dépression, les enseignants en dépression, allaient se faire soigner. Et je me souviens avoir entendu quand j'étais pionne un élève dire à une prof "Toi, je vais t'envoyer à Marcel Rivière, ça c'était l'Institut Marcel Rivière. Je vais t'envoyer à Marcel Rivière."
Classe.
Et ça m'avait... Mais que les gamins aient intégré qu'on pouvait faire du mal à ce point aux enseignants et que les enseignants soient vulnérables au point d'être en dépression. Et il y avait des drames, effectivement, autour de centre. Et j'avais envie de partir d'un fait dramatique pour raconter des choses drôles.
Et leur rendre hommage aussi, d'une certaine
façon. Parce que j'ai aimé mes profs. Ouais. Moi, je les aime toujours et je leur dois vraiment beaucoup. Et c'était un hommage, oui.
Raphaël Rémy Leleu nous a rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour. Soyez la bienvenue à ce micro. Vous êtes porte-parole de l'association Osez le Féminisme, co-auteur avec Margot Collet de Beyoncé est-elle féministe? J'aime beaucoup la question. Aux éditions First, qui est sortie l'année dernière, à peine.
Oui, en septembre.
C'est ça. Pourquoi y a-t-il des femmes nues partout? C'était la question que vous posiez autour de Beyoncé.
Ouh, il y avait beaucoup de questions autour de Beyoncé. Plein de questions qu'on retrouve d'ailleurs dans le spectacle de Sophia Aram.
En tout cas, à partir des clips, à partir des modes de communication, pourquoi voit-on des femmes nues pour nous demander de manger des yaourts ou acheter une voiture?
On a notamment un titre de chapitre qui s'intitule « Pourquoi faut-il une femme nue pour vendre du yaourt ?» Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Pour vendre des montres, il faut mettre des femmes à poil. Pour vendre des yaourts, il faut mettre des femmes à poil. Pour vendre de la salade, limite, faut mettre des femmes à poil. Et donc, toute cette hypersexualisation et le fait que la femme, finalement, est toujours un objet, jamais un sujet. Elle est toujours centrale dans les histoires, mais jamais active. Pareil que dans les contes dits de fées. Oui. Donc, ça fait partie des questions qu'on pose beaucoup, qui nous sont beaucoup posées et auxquelles on a envie de répondre.
Ça, c'est depuis que l'humanité existe, les statues, les déesses, il y a toujours des sur les peintures, les toiles,
ouais,
la femme nue est très présente.
Oui, si on en arrive à l'Antiquité, oui, mais il y a beaucoup de retournements dans l'histoire où il y a, par conservatisme, le corps des femmes qui est caché. Et d'ailleurs, on en parle aussi, c'est assez bizarre cette expression, le corps des femmes. Comme si il y avait les femmes qui pouvaient se balader d'un côté et leur corps de l'autre. Et je pense notamment, ne serait-ce qu'aux femmes qui sont encore en procès et qui sont encore condamnées pour exhibitionnisme. Alors qu'un supporter de foot qui se met torse poil au milieu de l'Arc de Triomphe, personne ne va lui intenter un procès pour exhibitionnisme.
Torse nu, un homme ne peut pas le faire parce que c'est pas considéré comme son torse n'est pas considéré comme objet sexuel.
Ça pose la question des seins. Il a des seins.
C'est le double standard. C'est quelque chose qui est à la fois de l'ordre, parfois de l'hypersexualisation, parfois de l'hyperconservatisme.
Mais ce qui rend,
et on essaye de naviguer entre les deux.
Ce qui rend les seins objets d'attirance ou de fantasme ou de délire, c'est le fait que ce soit quotidiennement caché par les femmes sur la plage
les hommes aussi, en ville.
Les hommes ont pas un haut de maillot
sauf
sur la plage. Ville,
ça dépend, je t'emmènerai sur des plages, Nagui.
Ouais, sauf que dans la vie quotidienne, les hommes cachent leur torse aussi.
Ça, c'est parce qu'il fait froid.
Non, mais pardon, je veux dire, on va pas demander à toutes les femmes de revenir. D'ailleurs, elles sont plus du tout seins nus sur les plages. C'est fini, la mode des seins nus pour beaucoup de raisons médicales, d'ailleurs, et de protection.
Moi, je ne demande à rien, à aucune femme.
Pour comprendre le raisonnement, vous dites d'un côté, il faut arrêter de montrer des femmes nues pour faire de la publicité, et de l'autre, il faut accepter qu'on puisse voir des femmes nues dans des manifestations et pas les arrêter pour exhibitionnisme.
Mais c'est toute la question de la volonté de montrer son corps, finalement. Ouais. C'est que chaque femme soit libre de se gérer elle-même et pas uniquement son corps. Et ce qu'on montre surtout via ce raisonnement, c'est ce double standard, cette volonté de toujours contrôler le corps des femmes. Il y a une expression qu'on utilise régulièrement, c'est le corps des femmes, c'est le premier champ de bataille du patriarcat. Ça se voit sur la question des seins, ça se voit sur l'IVG, ça se voit sur la mini-jupe, ça se voit sur le voile. Enfin, vraiment, c'est en permanence l'objet qui revient et traité comme un objet politique, alors qu'on pourrait aussi être des sujets politiques et d'abord écouter ce qu'on a à raconter.
D'ailleurs, à ces sujets, généralement, on pose pas la question aux femmes en personne. On laisse des gens disserter sur le sujet sans les femmes.
Ou alors on fait venir Eugénie Bastier.
Ça, c'est encore un problème.
ne croyez pas que je sois contre tout ce que vous disiez. On peut pas vraiment mettre le voile et la mini-jupe dans la même phrase et les comparer.
Ah, je n'ai pas comparé.
Elles
je dis
pas
que
le
dans
même
la
poids et la non, même
non.
signification.
Non, non, je ne compare D'accord. pas ni le voile et la mini jupe. Je dis que dans les grands débats qui sont créés autour des droits des femmes, plus souvent on va parler de ce qui est relatif au corps des femmes que ce qu'on a envie de dire, que les droits qu'on a envie de gagner, et c'est assez pénible à la longue.
Le point de départ du spectacle de Sophia Aram à Nous Amours, je redonne le titre, est l'affaire Weinstein. Est-ce qu'elle a été utile à quelque chose, à part à la créativité de Sophia? Est-ce que ça a ouvert des débats et ça a apporté quelque chose?
C'est déjà important, la créativité de Sophia. Non, j'en profite merci. Pour dire merci parce que ça fait du bien aussi d'avoir de la création féministe, de la culture féministe. Et c'est une très bonne réponse à tous ceux qui pleurent en disant que les féministes n'ont pas d'humour.
Ça, c'est fait.
Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, sur l'affaire Weinstein, bien sûr, ça a été utile. Ne serait-ce que pour toutes les victimes, ne serait-ce que pour toutes les femmes qui ont pu, grâce à ce moment médiatique, à ce moment politique, prendre la parole, mais surtout être écoutées. Et ensuite, malheureusement, en France et ailleurs, il n'y a pas toujours eu une réaction à la hauteur, que ça soit la tribune sur le droit d'importuner, que ça soit finalement le niveau de tolérance sociale qu'on a toujours vis-à-vis des violences sexuelles contre les femmes, mais aussi contre les enfants. On a encore énormément de boulot à faire.
Et qui passe d'ailleurs par le silence des victimes, que ce soit les enfants qui n'osent pas parler en se disant c'est un adulte qui a porté la main sur moi, donc il a forcément raison. Il est le symbole de l'autorité, c'est lui qui me dit ce que je dois faire à l'école, ce que je dois faire à la maison, donc
oui, c'est
pas mal. Je ne dis rien, voilà. Et comme malheureusement beaucoup de femmes ont presque un sentiment, pardon d'employer ce terme, mais de culpabilité, ou n'osent pas dire qu'elles ont été agressées, tripotées, ou pire évidemment. Violée en allant témoigner dans les commissariats, mais j'ai l'impression que l'accueil maintenant se fait, d'après ce qu'on a pu entendre, et que l'écoute en tout cas se fait plus facilement. Ce sont des femmes qui accueillent, ce sont des femmes policières qui accueillent des femmes qui ont été agressées, et on ne demande pas de répéter 25 fois les témoignages, on ne prend qu'une fois.
Alors dans chaque aujourd'hui dans chaque commissariat, dans chaque gendarmerie, il y est censé y avoir une personne, le plus généralement une femme, particulièrement formée, dédiée à l'accueil des victimes. Bon, le problème, c'est qu'une personne, ça fait peu, d'autant plus que la personne a le droit de partir en congé et d'avoir ses récup. Et ce qui est quand même encore aujourd'hui extraordinaire, c'est que ça fait pas partie du corpus de base de dire on va écouter la parole d'une victime correctement. Personne n'a eu de formation particulière pour dire je vais croire la personne qui vient dire qu'elle a été victime d'un braquage à main armée. Je vais croire la personne qui a été victime d'un cambriolage. Par contre, une femme victime de violences sexistes et sexuelles, on va toujours remettre en cause. Et vous employez le terme de culpabilité, il est ultra important. En effet, ce silence des victimes, faut le dire, il faut le combattre, et puis surtout, il faut l'expliquer. Le silence des victimes, c'est avant tout la stratégie des agresseurs qui construisent ce silence, qui inversent la culpabilité et qui mettent la honte sur les victimes. C'est ce que vous avez pu dire plus tôt dans l'émission, c'est extraordinaire qu'en 2019, on dise encore à des femmes, fais attention à comment tu es habillée quand tu sors le soir.
Et je me permettais de dire, c'est un problème d'éducation. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Alors, j'aurais tendance à croire que tout est un problème d'éducation. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette... c'est vrai qu'on est éduqué de toute manière dans une société qui est encore un patriarcat et qu'on a plein de relais dans notre éducation.
Non mais on est même éduqué par nos mamans aussi dans cette réflexion-là.
Par nos papas et nos mamans elles-mêmes ont été éduquées dans certains schémas. C'est la difficulté.
Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle génération là qui, justement, après tous ces outings, tous ces débats, ces tribunes, ces spectacles, ces prises de parole, ces chansons aussi, parce qu'il y a des artistes qui en font des musiques et des titres. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous avez un sentiment auprès de la jeunesse que les choses changent?
Je vais me demander s'il y a des féministes qui mettent leurs ovaires sur la table pour porter haut le clito.
Non, pas leurs ovaires, parce que c'est dégueulasse, mais leurs couilles.
Oui, mais on n'en a pas, justement, donc on se réapproprie aussi les expressions.
Pardon, je blaguais, j'ai essayé une blague.
Non, mais...
Vous savez qu'elle marche.
Oui, ça change. Ce qu'on a vu, c'est notamment, il y a de plus en plus de personnes qui se disent féministes, notamment chez les 16-25 ans, et ça, c'est quand même un signe d'une évolution très positive. À Oser le féminisme, c'est comme ça qu'on a choisi le nom de l'association aussi, c'était pour dire qu'il faut se réapproprier ce mot, il faut se réapproprier ce combat et dire que le mythe dans lequel on a essayé de nous enfermer dans les années 80-90 comme quoi l'égalité était acquise, bah pas du tout, on est toujours payé 25% de moins quand on est une femme dans le monde du travail. Ouais. Et donc voilà, ça fait 10 ans, nous on va bientôt fêter nos 10 ans qu'on essaye de porter ces combats-là avec pédagogie, avec humour, dans tous les domaines, qu'on parle des comptes, qu'on parle des inégalités salariales ou même de sujets beaucoup plus graves comme les viols. Et on voit en effet que l'éducation passe à travers tous ces sujets et pas souvent de la manière la plus bienveillante et la plus progressiste.
Juste pour une toute petite anecdote, j'ai enregistré on était plusieurs à enregistrer des messages pour la Fondation des femmes pour protéger les femmes victimes d'agressions et d'abus, et dans toutes les personnalités qui sont venues participer, il n'y avait pas beaucoup de garçons. C'est encore dommage. On était peu nombreux, je trouve, comme mecs.
Si vous voulez, j'ai un coupon d'adhésion dans mon sac à main.
Je suis déjà chez la Fondation des femmes. Vous acceptez ceux qui sont des autres
côtés? Mais oui, avec grand plaisir. Cool. Avec grand plaisir. Non, c'est vrai qu'il y a encore peu d'hommes. Compris parce que.
Non, je veux dire, il faut dire que les hommes peuvent être féministes, quoi.
Tout à fait.
Oui, parce que souvent, la réponse que font les hommes, c'est de dire, moi, je peux pas être féministe parce que je suis un homme. Et là, je me dis, bon, alors, on va s'asseoir 5 secondes, on va réexpliquer le concept, et puis tu vas sortir. Et en fait, tu l'es, foncièrement, tu l'es, parce que dans tes agissements, tu l'es.
Et alors, il y en a qui sont tellement féministes qui se disent, je peux pas être féministe parce que finalement, je vois pas toutes les agressions que ressentent les femmes. Mais du coup, je peux être un allié, je peux être pro-féministe, tout ça. Enfin, nous, typiquement, on est une association mixte. On a besoin aussi d'avoir des hommes qui s'engagent, qui comprennent les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui arrêtent eux-mêmes d'être des problèmes parfois. Mais ensuite, c'est important de pas...
On peut vous joindre comment d'ailleurs? Vous contactez comment?
Alors, www.oserlefeminisme.fr, tout simplement, Twitter, Instagram, Facebook.
Très bien.
Rejoignez-nous.
On n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais là aussi, c'est pas simple sur les réseaux sociaux, le féminisme. Il y a encore énormément de travail.
Ah, mais être une femme au quotidien, ça n'est pas simple, malheureusement.
Eh ben, courage. Et on est féministe, en tout cas. Juste après les infos. Tanguy Pastureau sera avec nous, il nous emmènera aux Antilles, mais ça sera dans quelques secondes. Bonjour, la bande originale, suite et fin, c'est reparti avec toute l'équipe et notre invité du jour pour son seul en scène à Nos Amours. Ce sont les meilleures émissions que vous réécoutez tout au long de la semaine. C'est Sophia Ram qui est avec nous. Hey, avec ce seul en scène, comme vous le faites depuis le début, écrit avec votre compagnon. Elle se donne en spectacle, mais dans tous les sens du terme. Non, mais c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure Exil Rossignol, la mise en scène aussi est importante. S'approprier l'espace, s'amuser à danser, à mimer des scènes, à jouer avec les jeux de lumière, à chanter.
Incarner des personnages.
C'est un spectacle, oui, c'est ça.
J'ai énormément de plaisir. Je prends énormément de plaisir sur scène, je m'éclate. Le public est top, les gens chantent avec moi, les gens...
La tata, alors, comme personnage, il y a
toujours Tata Fatiha, elle est dans tous mes spectacles. Tata, voilà.
Elle existe ?
Non. Non, en fait,
c'est un mélange.
Ouais. C'est un peu une synthèse. C'était ma grand-mère était quelqu'un d'extrêmement grossier. Elle disait beaucoup de gros mots et elle parlait pas très bien français, mais elle avait bien appris les gros mots. Et par exemple, moi, elle me babysitait de temps en temps et quand elle me gardait, elle faisait des doigts et moi j'ai essayé de faire des doigts. Je devais avoir 2-3 ans hein, et j'ai me trompé de doigts. Je faisais toujours avec l'index et alors du coup, elle me mettait des allumettes entre mes doigts
pour
m'apprendre à bien utiliser le majeur. Ouais. Et donc j'ai utilisé un peu ce personnage de ma grand-mère pour en faire un peu quelqu'un d'autre.
Qui d'autre? Martine?
Martine, ma prof à l'EHESS. Mmh. Pareil, c'est une synthèse, j'ai pas connu de Martine, ouais. Mais j'avais des profs à l'EHESS qui étaient des féministes old school, assez rentre-dedans, qui arrivaient avec leurs gros sabots et leurs pantalons à velours côtelé.
Ouais, c'est ça. Mais on l'imagine, on la voit très bien. Enchaînement tout trouvé avec Tanguy Passion.
Alors là, on ne peut pas faire mieux.
Tanguy, vous aimez comme nous tous les Antilles.
Oui, je les adore, d'autant plus que j'y suis jamais allé. Donc on adore toujours ce qu'on ne connaît pas jusqu'à ce qu'on le connaisse. Regardez la sodomie. Moi, les Antilles, ça m'a toujours fait rêver. Quand j'étais gosse, je regardais les clips de Philippe Laville en me disant « C'est comme le clip de Thriller de Jackson, il y a des zombies. » En fait, il s'agissait de mecs en arrière-plan défoncés aux planteurs qui zigzaguaient sur la plage. Puis j'ai vu les documentaires d'Antoine, cet homme qui, à cause de ses poils, ressemble à un furby. Si bien que les gosses viennent le caresser et qui doit les repousser en criant des trucs effrayant comme « c'est un déguisement, en fait je suis Martine Aubry ». Philippe Laville, Antoine, je me disais « ils me ressemblent les Antillais ». Puis j'ai réalisé que là-bas il y avait aussi des Noirs. Donc je me suis dit « c'est exactement comme en Île-de-France, ça vaut pas le coup de claquer du blé dans un vol de 9 heures en EasyJet à côté d'une mémé qui sent la boule antimite ». Et je suis resté chez moi. Bref, j'irai jamais aux Antilles parce que je déteste prendre l'avion, j'ai peur. Je me dis qu'il va se crasher, qu'il va y avoir un attentat, enfin, dès que je vois monter un arabe, je suis rassuré parce que je sais qu'il s'est fait contrôler 2 fois plus à l'aéroport. Il a été plus scanné qu'une boîte de petits pois par une caissière parkinsonienne. Mais quand je traverse la business pour aller me mettre au fond avec les gueux et que je vois une blanche l'air déprimée en train de pleurer, mais je me dis c'est elle qui a la bombe. Les mecs l'ont à peine fouillée, ils se sont pas méfiés, ça se voit qu'elle est au bout du rouleau. Et là je la reconnais et je lui dis « Oh bonjour Madame Huppert, vous allez aux Antilles ?» Le souci c'est que les Antilles c'est la France, mais c'est loin, encore plus loin que la Creuse. Et on n'en entend jamais parler. Dans le JT de 13h de TF1, il y a dû avoir 9000 reportages sur la baie de Somme et un sur Pointe-à-Pitre, et encore à l'occasion du jumelage de Pointe-à-Pitre avec Saint-Valery-sur-Somme. L'INA, le service qui garde les images de tout ce qui s'est passé à la télé française, comme la fois où Gilles Verdez avait dit en hurlant qu'il fallait virer Ruquier, ou la fois où Gilles Verdez avait dit en hurlant qu'il fallait virer Berne, témoigne, ils ont fait les calculs, l'outre-mer n'apparaît qu'à hauteur de 0,5% dans les JT. Alors pour ce faire, ils ont maté tous les JT du soir de TF1, France 2, France 3, Canal, Arte et M6, de 2007 à 2017. Le type qui a fait ça a perdu la vue. La rétine usée par le reflet des projecteurs sur les cheveux de Laurent Delahousse. Ça pardonne pas. Le petit stagiaire qui va au JT de la 2, son deuxième stage, c'est l'Institut National des Jeunes Aveugles. D'après l'étude de l'INA, on a surtout parlé des Antilles en 2009 parce qu'il y avait un mouvement social. C'est à ça que les Antilles sont bien françaises. Et en 2017, à cause de l'enterrement de Johnny à Saint-Barth. Entre 2009 et 2017, que dalle! Et il y en aurait eu encore moins si Johnny était resté en vie comme tout le monde, ou comme Gérard Collomb.
Et les habitants des Antilles, du coup, ne se sentent pas représentés.
Bah bien sûr que non. En 10 ans, on a moins parlé d'eux que de Charlie Oleg. Déjà moi, quand j'étais petit en Bretagne, que je matais Champs-Élysées, j'étais pas dedans. Des tas de stars qui se pavanent en plein Paris. À part quand il y avait Alain Souchon, parce que sa coiffure, je pensais que c'était un nid de goéland. Enfin, ça me parlait pas. Hein, je criais à Drucker, mais viens, Mimi, devant l'hôtel de ville de Quimper. C'est pareil. On a des vedettes. Il y a Nolwenn Leroy. Ok, elle est dans le ventre de sa mère. C'était en 82. Hein. Mais les films, l'échographie, Michel, c'est plus intéressant que François Ferrand. Spellman. Mais les régions sont oubliées du PAF. Tout se passe à Paris, dans 4 radios et sur 3 plateaux télé. Si t'habites le Limousin, t'as peu de chances de te faire filmer. Ou alors par un monsieur tout nu qui en même temps se lèche le bord de la moustache. Alors l'outre-mer, c'est pire. S'il n'y a pas de Johnny qui meurt, on n'en parle pas. Et heureusement qu'il voulait être inhumé à Saint-Barth. Parce que s'il avait craqué pour le VVF de Royan, il le foutait sous le bolodrome et les sujets sur les Antilles passaient à 0% du temps d'antenne. Mais le pompon, comme diraient nos auditeurs âgés, c'est-à-dire tous, c'est qu'en plus France O, la chaîne consacrée en partie à l'outre-mer, va fermer. En échange, Delphine Ernotte, boss de France Télé, a précisé qu'il y aurait une présence renforcée de l'outre-mer sur les autres chaînes. Donc cherchez pas, d'ici 6 mois, n'oubliez pas les paroles sur deux, c'est un spécial zouk. Dans C'est à vous, à chaque repas, ce seront des acras pimentés. Julien Clerc, après interview, passera 1 heure au WC. Tandis que l'autre invité, Franck Dubosc, patientera devant la porte. En attendant, il enfilera un gilet jaune en disant « je suis pour », puis il l'enlèvera en disant « non, en fait, je suis contre », puis il le remettra en disant « non, en fait, j'ai réfléchi, je suis pour ». Le jaune, ça l'a rendu fou. Si voit la reine Elisabeth II en petit tailleur, il pète un câble. Mais en attendant, les Antillais sont les parents pauvres des médias. C'est lamentable parce qu'il n'y a pas un Français qui vaille plus ou moins qu'un autre. Les Antilles sont invisibles. C'est le Parti Socialiste, mais en île.
Merci, Tony Bassio.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Sophia Ram avec À nos amours dans ce spectacle. Et on l'a déjà vu dans quelques teasers ou des émissions que vous avez faites aussi. Il y a ce sketch qui est beaucoup repris sur les règles qui font énormément parler. À partir du spectacle, qui font pas parler dans la vie. On n'en parle pas des règles. Et même dans les pubs d'ailleurs, pour les serviettes hygiéniques ou pour les tampons, c'est évoqué.
C'est l'euphémisme.
Le sang est bleu. Violet.
Mais ça s'ouvre en corolle. Ouais. Moi, j'adore le truc qui s'ouvre en corolle. Quoi.
Ouais. J'avais un cousin qui croyait que ça servait à ça. Qui croyait que les tampons, c'était juste pour mettre dans des verres et que ça s'ouvrait. Comme ça, il se demandait pourquoi on achetait ça.
Alors, ça vient de quoi? C'est parce que c'est une question d'hygiène, une question de pudeur, une question d'éducation. C'est ancestral.
Mon sentiment, c'est que c'est religieux. Ouais. L'impureté des femmes, elle a été vendue dès le départ. C'est-à-dire que dire d'une femme que quand qu'elle a ses règles, elle est impure, c'est une façon de nous discréditer tout de suite. Et donc, on nous parle souvent de pudeur. Mais je fais pas beaucoup la distinction entre la pudeur et la honte. Parce que mon sentiment à moi, c'est qu'on nous a appris à en avoir honte dès le début.
Toute religion confondue, c'est ce que vous dites.
Toute religion confondue, même si dans le Nouveau Testament, c'est pas dit textuellement, mais dans l'Ancien, oui.
Oui, mais l'Ancien, ça ressemble à la Torah aussi, puisque...
Oui, c'est le même bouquin.
Voilà, c'est le même bouquin.
On
cite Pline l'Ancien. Oui, c'est la première encyclopédie d'histoire naturelle dans laquelle on explique que le sang des femmes pourrit les fruits.
Plus rien ne pousse.
Avec le Vésuve, parce que c'est lui qui a décrit l'éruption du Vésuve. Il est connu pour ça.
Exactement.
En fait, l'Ancien. Donc les règles et l'éruption volcanique, c'est la même, quoi.
Et on a découvert, en lisant Ceci est mon sang, qui était un livre aussi sur les règles, qui était très, très, très intéressant, justement, sur l'histoire du rapport qu'on a aux règles. Il y a des chercheuses qui ont fait ce travail-là. Mais qui n'est pas complètement vulgarisé. Pour revenir à l'éducation...
Aucune religion ne rattrape l'autre ?
Non.
Okay.
Non, dans la religion juive, ça va très loin. C'est-à-dire qu'il y a un bain de purification après les règles, avant que la femme puisse redevenir fréquentable, touchable...
Propre.
Et partager
et
le lit.
Elle ne peut pas partager
le lit, c'est ça qui est fou.
Alexis Rossignol a raison.
Ça fait tourner la mayonnaise.
L'histoire de la mayonnaise.
Ça me rend dingue.
Idée reçue.
Merci, Nagui.
C'est toutes ces croyances.
C'est peut-être comme ton cactus, en fait, Sophia.
C'est ça, il y a des gens qui y croient, et quand on y croit, ça marche.
Mais je pense qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui y croient.
Il ne faut pas rentrer dans la cuisine quand on a
l'oreille. Sur la mayonnaise,
ouais. Oui, bien sûr.
Mais est-ce qu'il faudrait d'ailleurs, là aussi, libérer la parole, dire aux agences publicitaires, arrêter de communiquer autour des tampons et des serviettes hygiéniques comme vous le faites?
Déjà, prononcer le mot, règle, c'est-à-dire qu'il y a des pubs pour les serviettes, pour les...
Ils disent jamais le mot règle.
Bah, j'entends pas.
D'accord.
J'entends pas règle.
Les règles, c'est un liquide bleu.
Oui, c'est ça, ou violet, et voilà. Et pour moi, je trouve que pour les petites filles, il y a quelque chose d'assez. Enfin, d'ailleurs, dans les études, on découvre que la perte de confiance en soi chez les petites filles, elle arrive à ce moment-là, parce que c'est quelque chose d'assez traumatisant en réalité. On saigne, c'est pas quelque chose d'anodin dans le corps.
Mais ça vient encore, pardon, de ce que la maman explique
ou le papa
à la petite fille.
Il y a des hommes qui élèvent leurs filles et ils devraient pouvoir en parler librement, mais c'est pas simple. Alors, ok, je suis d'accord, je suis à 100% d'accord, il faut éduquer les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait de cette génération qui est là? Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils arrêtent d'être antisémites, pour qu'ils arrêtent d'être sexistes, pour qu'ils arrêtent d'être homophobes? Parce qu'il n'y a pas une génération qu'on va sacrifier pour s'occuper que des enfants. Il faut qu'on s'occupe de nous tous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est là, on est responsable. On ne va pas se décharger de nos responsabilités pour dire occupons-nous de nos enfants d'abord.
Alors, écoutez, ce qui est dit par les uns et les autres, c'est la répression, la condamnation, le...
et ne jamais rien laisser passer dans tout ce qui est dit tous les jours, c'est-à-dire que les sous-entendus, les ouais, enfin, tu sais, ces gens-là. Enfin, voilà, ça, faut pas laisser passer. On l'entend. Aujourd'hui, on a été très, très, très complaisants avec des tas de propos, des tas de sous-entendus. Mais quels qu'ils soient, hein, je parle de l'antisémitisme parce que c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Je parle de l'homophobie, je parle du racisme, je parle du sexisme aussi. Il ne faut rien laisser passer et arrêter de faire juste un petit revers de main en disant, ouais, bon, ça va, c'est pas non plus si grave que ça. C'est grave. C'est grave parce que poussé à l'extrême, ça tue.
L'actualité, vous la traitez avec humour tous les lundis matin sur Inter. Ça vous manque de ne pas pouvoir la traiter comme faisait peut-être Guy Bedos avec une espèce de revue de presse dans votre spectacle ?
Non, je l'ai fait dans mon précédent spectacle et en réalité, l'actualité que je traitais, c'était l'actualité de la montée de l'extrême droite, la montée de l'islamisme radical et c'était pesant. C'était très 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 pesant de le faire au quotidien et de devoir réécrire au quotidien. J'ai réussi, j'ai éprouvé du plaisir à le faire. Aujourd'hui, j'avais envie de quelque chose de plus posé où il y a ce travail aussi de prise de hauteur par rapport à ce sujet-là où on a pris le temps d'étudier parce que l'actu à chaud, c'est un autre exercice et c'est un peu fatigant.
Vas-y, et ce n'est pas le cas tout le monde autour de cette table.
Ça bosse, hein.
Merci Damien Morin.
Il bosse. Vous le savez, ici sur Inter, on a le souci de l'information et de la vérité chevillée au corps. Pour nous, service public, c'est bien plus qu'une dénomination. C'est surtout une promesse. Ce matin, je vais donc revenir sur une affaire, une sale affaire sur laquelle on est passé un peu vite. Pourquoi est-on passé un peu vite dessus ? Bien tout simplement parce qu'elle se déroule en province. Et que les médias traditionnels, en quête de sensationnalisme urbain, ne jugent que très rarement nécessaire d'évoquer nos régions et les malheurs qui frappent leur population déjà fort sinistrée par le manque de moyens et de culture. Dans le sud-ouest du pays, une femme de 94 ans a été retrouvée morte dans son jardin. Le coupable pourrait être un bouc qui l'aurait bousculé. Ne riez pas, c'est une affaire triste. Une affaire triste qu'on se devait de creuser ici au service public.
Affaire sensible.
L'histoire d'aujourd'hui est troublante. Elle est étrange, elle est aussi effrayante. Elle est en tout cas... elle est sensible. Calmez-vous, madame, calmez-vous. En Dordogne, dans la petite commune de Saint-Médard de Mussidan, vit une femme. Une femme seule. Femme âgée de 94 ans qui, tous les jours que Dieu fait, entretient, comme elle le peut, son petit jardin où pousse de façon erratique quelques légumes qu'elle consomme pour donner un petit coup de pouce à sa maigre pension. Et puis, le lundi 2 avril 2018, le corps de la nonagénaire est retrouvé sans vie aux environs de 13h34. Elle gît au sol au milieu de ses légumes, les circonstances de sa mort sont floues. On ne lui connaissait pas d'ennemis, alors l'enquête part tous azimuts. On interroge les voisins, les amis, les trafiquants de légumes. Rien. On est au point mort. Puis d'un coup, l'enquête fait un bond, elle progresse. On a un suspect. Un suspect pas banal. Oui, pas banal, le suspect est un bouc. Un bouc en milieu de vie dont le quotidien n'a rien d'exceptionnel. Il passe ses journées à brouter, à renifler les brebis. Mais à part ça, rien. Pas un casier, pas d'antécédents judiciaires, pas de mauvaise fréquentation, ni d'addiction particulière qui aurait poussé le bouc à basculer dans l'impensable. Mais un bouc qui, renseignement pris, avait mauvais caractère. Dans le voisinage, les témoignages de sautes d'humeur du caprin deviennent de plus en plus nombreux, de plus en plus détaillés. Le bouc serait caractériel, tendance bipolaire. Sympathique mammifère broutant, il pouvait passer en une fraction de seconde à l'état de bête hirsute et vandale en quête de destruction de jardinets. Oui, mais tout ça, ce n'est que de la suspicion, pas de témoins, pas de preuves. Les inspecteurs espèrent des aveux pendant la garde à vue. Une garde à vue complexe. Le bouc de nature taciturne n'est pas loquace.
Les inspecteurs lui mettent sous le nez les photos des traces de sabots fondus qu'on a retrouvées près du corps de la victime. Des traces bien spécifiques qui n'appartiennent qu'à deux catégories animales, les boucs et André Manoukian. Mais André Manoukian, à l'époque des faits, a un alibi en béton. Il est déjà en garde à vue dans un commissariat d'Erevan pour une sombre histoire de choriste violenté puis dépecé. Il n'a rien à voir avec l'affaire sensible qui nous tient en haleine aujourd'hui. L'étau se resserre sur le bouc qui ne dit rien. Il fume clope sur clope et finit par dire aux inspecteurs « Arrêtez, c'est pas moi, au moment des fêtes, je regardais, n'oubliez pas les paroles. » N'oubliez pas les paroles, une célèbre émission animée par un homme au physique rassurant, mais qui, selon une étude, rend les téléspectateurs nerveux, voire psychopathes sur le long terme. L'enquête stagne, mais le profil du maniaque se dessine. Quand d'un seul coup, l'inspecteur principal tape du poing sur la table et s'écrie « Psychopathe et mythomane ! Au moment des faits, monsieur le bouc, vous dites que vous étiez en train de regarder « N'oubliez pas les paroles ». Or, « N'oubliez pas les paroles », c'est en fin d'après-midi, et le corps de la victime a été retrouvé vers 13h34. Votre alibi ne tient pas la route ! Pris dans la tourmente du mensonge, le bouc se met à transpirer. « On sait que c'est toi, sale bouc de merde !» hurle l'inspecteur. Pris de panique, se sentant pris et que l'essau ne se desserrera plus, le bouc se lève et crie « Ciao, ciao, ciao !» Puis il saute par la fenêtre. 60 étages plus bas...
Ah oui,
le bouc J.
Quand même. Bouc J.
Le bouc J. Était-ce lui le responsable? Lui le coupable? Tout porte à le croire, mais sans aveu, on ne le saura jamais vraiment. En tout cas, c'était... une affaire sensible. À demain.
Merci, bravo, Léon.
Souvent, je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent, je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent, je mens. Je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dame, je crois en tout ce qui code. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan, comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minère. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fétiller en douceur, me faire bander aimant dans des rêves lourds et à pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh, 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 oh. J'ai le cœur en dame. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame. Chaque fois que je tombe croque, love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent.
m'impressionne. Donc si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces. Sans les jeux de baise à la ramasse, il me manque ce petit tac de sursoi pour que ça marche. En attendant je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Faut que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Je crois en tout ce qui code, comme, comme. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dame, dame, dame. Chaque fois que je tombe croque, love, love, love. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fuck si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Sophia Ram sur France Inter le lundi à 9h05.
C'est ça.
Vous avez joué dans un film dans toute votre carrière. Je trouve ça peu pour quelqu'un qui voulait faire du théâtre, de la comédie et qui est comédienne justement, qui joue aussi.
Oui, enfin, ça s'est jamais. Vous interprétez ça s'est jamais présenté. Oui, j'ai joué dans Neuilly, sa mère et j'ai remplacé Rachida Brakni qui pouvait pas être libre pour le tournage, mais c'était un bonheur.
Et quand j'ai vu l'affiche du nouveau film d'Ahmed Hamidi qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, je me suis dit, Sophia Ram revient.
Mais carrément, et non, même pas, c'était un hommage.
C'est une phrase qui dit dans La Haine.
Oui, si, mais c'est une expression.
Oui, absolument. Ouais. Mais l'envie de jouer au théâtre dans une pièce, entre guillemets, écrite par quelqu'un d'autre que vous, ça pourrait se faire.
Ça pourrait se faire, tout à fait.
L'envie est là, et comme le cinéma aussi.
Mais vous savez, j'ai une personnalité clivante. Et donc, on ne pense pas forcément à moi pour ces choses-là.
C'est vrai, vous pensez vraiment qu'il y a un délit de propos?
Non, je ne fais aucun procès d'intention à qui que ce soit. Je pense simplement qu'aujourd'hui, comme je dis des choses, que j'affirme, je porte des idées.
Des valeurs.
On a tendance à me considérer comme éditorialiste, journaliste, parce que je suis la fille chiante qui dit bon voilà, quand elle se dit de gauche, quand elle a des combats de gauche, quand elle se dit féministe, ouais, elle y va. Donc
pas assez lisse.
C'est ouais, pas forcément quelque chose qui va fédérer. Alors que moi je préfère laisser les gens se faire une opinion, c'est-à-dire que quand je parle, Ginny Bastier, elle sait qui je suis.
Eh ben changez rien, Sophia, c'est très bien comme ça. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh là, bien sûr. Ah oui, il est temps. Allez, désolé pour les parents, les amis, la direction de France Télévisions qui ont découvert l'enfance cachée, le grand espoir du journalisme du week-end à base de concours d'euros et de je m'enferme dans le frigo. Et voilà. Et encore, elle n'a pas parlé ni alcool ni poppers. Non, je ne donne pas son nom, et ce pour pas respect pour la famille Kadour Boudadi.
Ah,
et je le rappelle, je le dis à tous ceux qui nous ont rejoints à l'instant et qui n'ont pas entendu toute l'émission, ça a été dit il y a à peu près un quart d'heure. Les règles font tourner la mayonnaise. Arrêtez de faire la mayonnaise quand vous avez vos règles. C'est scientifiquement prouvé et appuyé par le docteur Nagui.
Merci Sophia Ram.
Merci mille fois.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même adresse, même radio, pour partir sur les routes de France avec Sylvain Tesson.